Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast pour Press Start Button. Aujourd'hui, cette semaine, nous allons parler de quelques consoles d'une marque qui est rentrée dans les mémoires des joueurs très très longtemps et même actuellement on en parle encore. Des consoles mythiques de la marque Sega. On va parler de la Master System, de la Mega Drive, de la Game Gear. Pour commencer une grande saga qui continuera la semaine prochaine, nous parlerons de la Saturn, la Dreamcast et de Sega en tant qu'éditeur. Pour ce faire, nous avons avec nous Xelan, comme d'habitude.
Salut.
Et Kekin, qui est donc admin sur ET6, espace-temps 6. Et donc qui est un petit peu spécialisé dans le rétro gaming Sega. Donc voilà, alors on va faire un petit peu comme d'habitude, on va reprendre ça chronologiquement. Et on va commencer donc un petit peu par la naissance de Sega. Comment tout ça est né, comment cette légende est-elle née? Et c'est quelqu'un qui va nous raconter ça dans les grandes lignes.
Alors oui, donc Sega a été fondée en 1954 par David Rosen, qui est un Américain qui s'est exilé au Japon. Quelques années plus tard, en 65, il décide de renommer son entreprise Service Games, que ses employés ont renommé Sega, tout simplement.
Parce que les employés étaient japonais et qu'ils n'arrivaient pas à prononcer le nom. Tout bête.
Possible. Ouais, c'est très possible.
Possible et véridique.
Moi, je le savais pas très bien.
Voilà. Donc cet homme-là, il se rendait pas compte à l'époque que ça allait devenir une tuerie. Pour se remettre dans le contexte, Nintendo était... quand même leader sur le marché quand les premières consoles de Sega sont sorties. Je vais bien sûr parler de la Sega Mark 1 et de la Sega Mark 2, donc qui ont fait un succès mitigé, qui ne sont sortis qu'au Japon, il me semble, et aux États-Unis. Et donc suite à ça est venue donc la Sega Mark 3, plus connue sous le nom de Master System. Donc tu vas nous préciser un petit peu la différence entre les deux, quelqu'un?
Ah oui, ce sont pas vraiment les mêmes machines. Techniquement, la base est la même. Seulement, la Mark III est une version micro, et la Master System, une version console qui est sortie plus tard.
D'accord, donc c'était un micro-ordinateur à l'époque, un peu comme un Amstrad ou un PC Engine.
À peu près, ouais.
Ok. Et donc, la Master System, donc en 1986, je me trompe pas.
Il me semble bien, oui, c'est ça.
Donc, 1986, la Master System, donc première console de salon de Sega, première vraie console de salon, qui se branchait sur la télévision. Et donc, la grande nouveauté de cette console, eh ben, déjà, c'est que, comparé à la NES, on va essayer de prendre Nintendo en point de référence, parce que c'était quand même son principal concurrent. Comparé à la NES, la Master System, déjà, incorporait un jeu. C'est-à-dire que quand on ne mettait aucune cartouche dans la console, on avait un jeu, et ce jeu, c'était Alex Kidd. Xelan, il me semble que tu as joué Alex Kidd sur Master System.
Oui, j'ai eu l'occasion d'y jouer 3-4 fois. En fait, c'est un jeu de plateforme très très connu. En fait, difficile d'en parler, on peut dire que c'est un petit peu similaire à Mario sur certains points, et complètement différent sur d'autres, donc c'est assez difficile de parler d'Alex Kidd.
Ok, pour revenir un petit peu sur Alex Kidd, c'était un jeu de plateforme. C'était la mascotte de Sega à l'époque, Alex Kidd. Faut dire que Sega a eu quand même beaucoup de mascottes, on les énumérait au fur et à mesure. Donc on a une mascotte qui est Alex Kidd, qui est une sorte de petit singe à apparence humaine, qui a des gros points. Et donc le but, c'est tout simplement de parcourir les niveaux et d'arriver à la fin. Ceci dit, l'originalité des boss était que les boss se combattaient au Shifumi, donc au pierre-feuille-ciseau.
Ouais.
Pierre-feuille-ciseau, et donc c'était vachement aléatoire et très très difficile. Voilà pour Alex Kidd. À part ça, sur la Master System, qu'est-ce qu'on pourrait préciser? Déjà, les manettes étaient pas très ergonomiques. Je sais pas ce que vous en pensez.
Mmh. Bah, les manettes en fait ressemblaient énormément aux manettes de la NES.
Famicom, ouais. Énormément.
Elles étaient particulièrement laides.
À part qu'il n'y avait pas de croix multidirectionnelle, puisque c'était un brevet déposé par Nintendo à l'époque.
Oui, donc on n'avait pas le même style, en fait, de...
Mais à part ça...
Une espèce de pavé à quatre directions.
Le bouton pause était...
Juste la direction, en fait, ça faisait une sorte de petite étoile, le pavé.
Voilà.
Donc regarde, il y avait des boutons intermédiaires entre chaque direction.
D'accord. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas, tout simplement quatre boutons nord, sud, est, ouest. Il y avait aussi, aussi les diagonales qui étaient carrément physiquement des boutons. On peut préciser aussi que le bouton pause
Pas du tout.
était sur la console. Oui, quelqu'un?
Non, pas du
Oui.
tout. Il y a vraiment quatre directions et c'est tout.
Ah bon?
Bah, bien sûr. Si tu veux
Alors,
le.
c'est dans la
Si...
manette Mega Drive qu'il y a de, qu'il y a.
Non,
Je
dans
sais.
la Mega Drive aussi, il n'y en a toujours que quatre.
Il me semblait que justement il y avait des boutons intermédiaires
Ah,
entre
si,
les
si,
quatre.
non, non.
Il y a des boutons intermédiaires. On voit un petit symbole. Bah,
Oui, voilà, enfin.
j'ai même l'image de la manette sous les yeux et on voit.
Oui, enfin, y avait des petits, enfin, pas vraiment des boutons, mais des crans
Voilà,
qui,
qui
enfin,
indiquait qu'il fallait presser à cet endroit-là pour
voilà,
avoir
des
la
espèces de
direction
petites,
intermédiaire.
des petites bosses.
D'accord, c'est ça que vous appelez direction. Moi, j'avais plutôt la façon technique dont ça fonctionne,
Ah
qui
oui,
fonctionne toujours en quatre directions.
en dessous du pad, c'est ça?
Voilà, ouais, moi j'avais plutôt cette
D'accord.
vue-là, qui est vraiment classique.
Oui, d'accord. Et on peut préciser aussi que le bouton de pause était sur la console, ce qui était pas très pratique pour mettre sur
Un gros
pause.
défaut de
Pour
la
pas dire
console, oui.
extrêmement gênant, ouais, ça c'est
Ouais.
vrai. Oui, bah, il est obligé de se lever en pleine partie
Voilà.
pour faire pause.
Surtout quand il y avait écrit un beau press start button. Bah, voilà. Un beau press start button pour commencer le jeu, qu'on était bien assis dans son canapé. Et puis que. Eh merde, il fallait se lever. Donc voilà.
Quand on a deux doigts de se manger un coup aussi, c'est toujours très agréable d'avoir à se lever pour pas pouvoir réagir, devoir lâcher la manette. C'est génial.
Oui, c'est vrai. Je me souviens de Sonic où pour mettre sur pause, il fallait vraiment savoir être habile de ses mains et de son coude pour pouvoir mettre sur pause. Donc voilà pour les spécificités de la console. C'était une console sans être vulgaire bien sûr. Combien de bits?
8.
8 bits. Donc comme la NES.
Alors on évitera les jeux de mots parce qu'on va souvent utiliser, même dans les podcasts qui vont suivre, on évitera les jeux de mots sur bits. Hein.
On va
On
éviter
dit
de refaire le
maintenant.
podcast Pokémon.
Parce que après le podcast Pokémon, on peut s'attendre à tout. Donc voilà, donc maintenant bits, hein, pour
Voilà.
éviter.
BITS, bien sûr, au pluriel.
Bien sûr, bah enfin.
Voilà. Alors, on va continuer. Donc, on va un petit peu décrire les grands jeux de cette console qui est quand même mythique, qui était quand même pour l'époque une prouesse technique aussi. Les grands jeux de cette console. Alors, quelqu'un, t'en as quelques-uns en stock des jeux auxquels t'as joué qui sont vraiment.
Ah ben, je pense que tu vas pas me contredire si je parle de Wonder Boy 3, qui est en réalité le quatrième de la série.
Alors là, si
Qui...
on s'engage dans la chronologie de Wonder Boy, là, on n'a pas fini.
Oh mais on va pas aller plus loin, je voulais juste préciser ce point-là.
Voilà. C'est clair que Wonder Boy, c'est encore plus compliqué que Final Fantasy et tout ça. Donc, oui, donc Wonder Boy 3, donc c'était celui où on était un garçon, enfin un humain, juste les 5 premières minutes du jeu et qu'après on se transformait en toutes sortes de choses,
Exactement.
en
En
lézard,
dragon.
ou
On se fait transformer en dragon par un dragon sorcier, par un méca dragon, si je me trompe bien. Si je me. Ouais, voilà.
Ouais.
Et on a pour but de retrouver notre forme humaine, mais on n'y arrive pas d'un coup. Il faut d'abord se transformer en souris, en aigle, en
En
différentes
homme
formes.
poisson aussi, je me souviens
Exactement
de l'homme
aussi, oui,
poisson.
voilà.
Le jeu, il n'incluait pas un système de mot de passe pour continuer sa partie?
Exactement.
Si.
Ah oui,
Si, si,
voilà, oui.
si.
Oui, bah oui, alors j'y ai déjà joué lui aussi.
Un mot de passe à rallonge.
Oui,
Très
voilà.
très bon.
D'ailleurs, je
Qui
crois que toutes les notices, les bouclettes qu'il y avait à l'époque avec les jeux, les sortes de notices de jeux, les manuels, tous les manuels, les 3 dernières pages, c'était pour mettre des notes et je crois qu'ils étaient encombrés de code. On peut visiter n'importe quelle notice comme ça, on peut en prendre une sur 1 million, il y aura forcément 10 codes de sauvegarde et c'est pas valable que pour ce jeu-là, mais pour beaucoup de jeux de l'époque, je
Bah,
pense.
World of Illusion sur Mega
Exactement
Drive,
aussi, oui.
par exemple. Très bon jeu, mais bon, on va l'aborder plus tard.
Voilà. Alors moi, je voudrais placer un petit mot sur Paper Boy, qui n'est pas sorti que sur Master System, qui est aussi sorti sur NES, mais qui m'a marqué étant plus jeune, parce que c'était un jeu où on jouait les fameux distributeurs de journaux à vélo américains, et on devait éviter toutes sortes de choses comme des zombies, des chiens qui traversaient la rue, des voitures, et en même temps il fallait viser les boîtes aux lettres. et non pas les fenêtres. Et c'était très 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 fun comme jeu. Xelan, tu as d'autres jeux mémorables pour cette console?
Moi je retiens surtout les Sonic, hein, comme à mon habitude. Donc
Les
après
Sonic.
91, on va voir tout plein d'adaptations des jeux Sonic. Alors Sonic 1 de la Mega Drive, donc il sera adapté à la Master System, qui est très réussi aussi. Sonic 2, complètement différent de la version originale.
Avec la
Et
fameuse session en deltaplane qui m'a marqué.
ah oui, l'horrible niveau du deltaplane.
Très difficile, le deuxième niveau, oui.
Et on
Très très
retrouvera
difficile.
aussi des Sonic Chaos. Et la plupart des jeux Sonic qu'on trouve sur la Master System, on les retrouve aussi sur Game Gear.
Ok. Je crois que quelqu'un voulait préciser quelque chose. On parlait tout à l'heure des mots de passe de Wonderboy. Tu voulais préciser quelque chose?
Oui, que ce jeu est également sorti sur PC Engine et les mots de passe sont un tout petit peu moins longs sur cette console. Il y a même la possibilité de sauvegarder dans la version PC Engine si on possède un lecteur CD ou une banque de sauvegarde.
D'accord. Donc l'ancêtre de la carte mémoire.
Voilà.
Ok. D'ailleurs, on retrouve les mots de passe, le système de mots de passe aussi dans les Puyo Puyo, pour ceux qui connaissent, qui sont sortis sur Mega Drive, mais on en parlera aussi après.
Sinon, il y a les accessoires aussi de la console.
On va continuer un petit peu sur les jeux parce que on n'a pas tout énuméré, mais on peut énumérer Shinobi aussi.
Non, parce que moi, je voulais parler, tu vois, sur les lunettes 3D.
On va en parler
Si
avec.
quelqu'un connaissait avec quel jeu c'était compatible, j'aurais bien voulu.
Je ne connais pas.
Bien voulu
Je ne connais
savoir,
pas.
quoi.
Donc, Shinobi, le premier épisode était sur Master System, enfin, le premier épisode était sur arcade, mais ça a été porté sur Master System. Il y a tout plein de jeux arcade comme ça qui ont été portés sur Master System, comme Space Harrier. Space Harrier qui est un très très bon jeu aussi. Fantasy Zone. Dont le petit vaisseau était aussi pendant un moment la mascotte, avant Sonic était la mascotte de Sega.
La mascotte de Sega durant la Master System, c'était Alex Kidd, hein, de toute façon.
Alex Kidd et Oppa Oppa de Fantasy Zone.
On le dit, beaucoup, beaucoup le disent, hein, on voyait Alex Kidd partout.
Ah oui, c'est vrai, des Alex Kidd, il y en a pas mal, il y avait les Flickies aussi à repérer un peu partout. Les fameux Flickies qui étaient issus d'un jeu qui s'appelait Flickies, qui après sont devenus quelque chose d'ancré à l'univers de Sonic.
Oui,
Mais
récurrent, on les retrouve dans Sonic 3D notamment.
voilà.
Ils jouent un
Ouais.
rôle important.
Quelqu'un d'autre jeu des portages arcade?
Oui, Taito a aussi porté de très bons jeux arcade qu'il avait fait, comme Bubble Bobble et The News Giant Story.
Ok.
Voilà, pour dire que Sega n'est pas le seul à porter ses succès arcade sur la console.
D'accord. Alors, donc on va passer aux accessoires. Alors, Xelan va nous parler de ces fameuses lunettes 3D.
Moi j'avais des questions en fait sur les lunettes 3D.
D'accord. Alors, pour quel jeu c'était compatible? À mon avis, pas grand-chose.
Oui, sûrement un jeu de course, un peu à la manière. C'est un petit peu l'ancêtre du Virtual Boy de Nintendo des années plus tard.
Le fameux Virtual Boy qui donnait envie de vomir.
Oui, le Virtual Boy qui donnait très très mal aux yeux apparemment.
Voilà. Sinon, dans les autres accessoires, il y avait un pistolet
Oui.
Pour jouer une sorte de duck hunt,
Oui,
mais
c'était le Light Phaser.
Exactement.
voilà.
Donc, qui marchait en fait de la même façon que le zapper de la Nintendo Entertainment System.
Voilà.
Et qui apparemment était beaucoup plus précis.
Beaucoup plus précis, je tiens à dire que je l'ai encore et que ça ne marche pas sur les écrans LCD. Voilà.
Question de technologie, c'est pas compatible.
Voilà, que j'ai pu plus jouer avec. Mais oui, effectivement, oui. Alors, je voudrais préciser un truc aussi, c'est que les manettes de la Master System. Alors, c'est une anecdote. Je sais pas si ça a été fait exprès ou quoi. Mais moi, à l'époque, j'avais un Amstrad. Alors là, je m'égare un petit peu. J'avais un Amstrad, me demandez pas le modèle, c'est celui qui marchait avec les cassettes. Et j'arrivais, il y avait un port sur le clavier pour brancher des manettes de Master System. Allez savoir pourquoi. Mais c'était le même port que pour les manettes Master System et je pouvais jouer à mes jeux Amstrad avec ma manette de Master System. Voilà.
En fait, ces gars, ils ont souvent eu, ils ont
Utiliser beaucoup de
souvent
normes.
rendu ça compatible. Par exemple, les manettes Mega Drive étaient compatibles aussi avec un micro-ordinateur de l'époque.
D'accord. Bah.
L'Amiga, je sais que les manettes sont compatibles Amiga. Elles utilisent à peu près la même technologie en fait, comme elles utilisent la même fiche, à peu près le même pin-out. C'est assez facile de les utiliser de l'une sur l'autre. Et
D'accord.
très certainement les mêmes puces à l'intérieur.
Ok, bah tout simplement, bah j'ai ma réponse.
Voilà.
D'accord. Donc ça, c'était pour les accessoires
Ah. Ah oui,
de la
bah j'ai
Master
trouvé
System.
en fait le jeu.
Alors.
C'était Missile Defense 3D.
Ah, maintenant que tu en
En fait,
parles.
c'était sous forme de pack qui est sorti entre 87 et 90, qui s'appelait le Super System. On y retrouvait deux manettes, le pistolet, les lunettes 3D et le jeu. Et donc en fait
D'accord.
on jouait, et en fait c'était combiné, en fait on jouait au pistolet et aux lunettes, donc ça devait être
Ouh là
assez
là
bien
là là.
fichu, je pense, pour l'époque.
Ouais, mais pour viser avec des lunettes 3D sur l'écran.
Ça devait être assez immersif, je pense.
Ah ouais, immersif quand on est daltonien et qu'on voit pas le vert et le rouge. Parce que je rappelle
Oui,
que les
mais
lunettes
quand on est
3D.
daltonien, on joue pas aux jeux vidéo.
Je connais des daltoniens qui jouent très bien d'ailleurs aux jeux vidéo, sauf à Puyo Pop Fever. Évidemment, ils voient pas les couleurs, donc c'est un peu dur pour eux. Alors, donc on va passer maintenant, donc par ordre chronologique, est sortie la Mega Drive. La Mega Drive, alors c'est quelqu'un qui va nous raconter un petit peu les débuts de cette console.
Oula, les débuts, je les connais assez mal. Mais elle est sortie en 88 au Japon. Elle avait pour but de concurrencer la Famicom de Nintendo qui avait encore un très très gros succès, et la PC Engine qui est sortie un an plus tôt et qui marchait très fort au Japon. Et voilà, dans
D'accord.
l'ensemble, c'est ça.
D'accord. À noter que la Mega Drive a été renommée aux États-Unis Genesis parce que
Sega Genesis.
le Sega Genesis parce que le nom Mega Drive était déjà déposé par une autre entreprise aux États-Unis et que au Japon la Mega Drive a eu du mal à commencer a eu du mal à s'imposer à ses débuts, même beaucoup de mal.
Tout le
Vu
long,
que
elle
ça
s'est très mal
intéresse
imposée.
quelqu'un, les systèmes de jeux arcade, il faut savoir que la Mega Drive, elle est fait en fait la base de la Mega Drive, c'est le système 16, sur lequel on retrouve donc des jeux relativement connus. Alors Alex Kidd, Golden Axe, Fantasy Zone, Shinobi aussi. Et donc bah, par la suite, on trouvera également Sonic.
Street of Rage aussi, qui était un jeu de.
Effectivement, la Mega Drive est très proche du système 16, c'est vrai.
Tu vois, j'ai la petite liste sous les yeux et il n'y a pas Street of Rage.
Street of Rage,
Non,
c'était
non, je
un.
pense. Alors,
Pas
ça
du
doit
tout,
être sur en
oui.
fait les systèmes qu'on suivit, c'est-à-dire Megatech, système C et Megaplay.
Non, pas le système, c'est juste Megatech et
Tu vois, je cherche, mais.
Alors là,
Non,
je
non, je
suis,
confirme, je
mais alors
confirme.
complètement à l'ouest.
Je confirme, je
Les
confirme.
systèmes qu'on dû suivre, tu vois. D'accord.
Mais
Donc
oui,
ça,
ce sont des.
c'est.
La Mega Drive est basée sur le système 16, qui est un système arcade, mais il y a eu d'autres systèmes arcade qui ont été basés, eux, sur la Mega Drive
Oui,
en
voilà.
eux-mêmes,
C'est
et
ce que j'ai
qui
dit.
sont encore plus proches de la Mega Drive que la
Voilà.
Mega Drive du système 16.
Donc,
Ah voilà,
d'accord.
c'est la Sega Mega Play, sur laquelle il y a
Voilà.
eu Street of Rage, Street of Rage 2, et
Ok.
les Sonic, notamment.
En arcade? Oh.
Oui,
Oui,
bah oui, c'est pas
c'était
faux.
l'équivalent des versions console, mais avec une gestion des crédits en plus.
La différence, c'est que tu mettais ta petite pièce et
Et
il y avait.
que.
En fait, j'ai eu
T'avais des niveaux en
l'occasion,
moins,
tu vois,
c'était génial.
j'ai eu l'occasion d'y jouer et c'est assez intéressant, c'est que tu vois, les petits moniteurs qui contiennent des vies étaient remplacés par des moniteurs contenant des rings. Et sur Sonic 2, ça complique un petit peu les choses, c'est assez intéressant à voir, faudra que tu essaies. Mais chut, c'est sur émulateur.
C'est vrai que c'est assez difficile de trouver une borne
Mais
capable de.
en même temps, je vois pas comment tu peux aller t'acheter une borne arcade, quoi.
Bah, Ascore Game.
Bah moi je
Bonjour
vois
monsieur,
comment.
vous avez une borne arcade?
Je dois bien rentrer chez toi, tu vois, avec ta borne. Pour jouer à Sonic 2.
Bah ouais.
Monsieur,
Bah
vous
ouais,
avez
mais
pas un plus
carrément.
gros sac? Parce que
Faudra que je te fasse un petit peu découvrir l'arcade parce que visiblement tu connais pas assez. On
là.
fera ça une autre fois.
Bah, pour
Mais oui.
l'arcade Sega, en tout cas, ce que je conseille, c'était. Une salle que Sega avait créée à Paris qui s'appelle La Tête dans les Nuages, qui maintenant n'est pas plus du tout une salle officielle Sega, mais qui était à l'époque une bonne salle d'arcade. Maintenant, quand on sait que l'arcade n'a plus de pouvoir sur le marché du jeu vidéo, toutes les bornes d'arcade sont jouables, mais à des prix astronomiques, 2 € une partie. On a intérêt à être un vrai hardcore gamer et à savoir vraiment jouer. Et les seuls jeux qui sont intéressants en arcade, c'est vraiment les jeux du type Dance Dance Revolution, des choses comme ça. Mais on s'égare un petit peu.
Ouais.
Alors, Donc, la Mega Drive, Xelan, quelques précisions sur des précisions techniques sur la Mega Drive.
Alors, des précisions techniques, eh ben, je vais te trouver ça. deux secondes.
Son processeur principal, c'est un 68000. Déjà, d'accord. C'est déjà savoir. Cadencé à 7,7 MHz. Elle a un Z80 qui s'occupe de l'audio. Il a 1,5, quelque chose comme ça, de mémoire.
Mm-hmm.
Qu'est-ce qu'elle a ? Elle a un processeur graphique qui s'appelle le VDP, qui est assez particulier, qui gère très bien et qui s'occupe parfaitement de son boulot.
Je crois qu'elle peut afficher maximum 80 sprites.
60 ou 81 en fonction de la résolution choisie, c'est ça.
Un maximum de 80 sprites, 32 x 32 pixels. Il faut savoir que le Zilog Z80, on le retrouve également dans la Game Boy et dans la Game Gear.
Ah, pour information, le Z80, c'est le processeur principal de la Master System.
Ok.
Alors, tandis que dans la Mega Drive, il sert uniquement
de processeur sonore. Exactement. Voilà.
Ah, moi aussi, je me suis informé.
D'accord.
Moi, je me suis pas informé.
Alors, donc, on va parler un petit peu des jeux qui sont sortis sur cette console. On va pas tout de suite commencer sur Sonic. on va voir ce qui est sorti avant Sonic. Qu'est-ce qu'il y avait ? On va décliner ça en deux parties. L'avant Sonic et l'après Sonic.
Avant Sonic, il y a déjà l'excellent Ghouls and Ghosts. Ou Dai Makaimura, qui est vraiment... La version Mega Drive est un bon portage. Sans être parfaite, c'est vraiment...
Alors, Ghouls and Ghosts, pour ceux qui connaissent pas, ou qui se souviennent plus de ce que c'est, Ghouls and Ghosts, on incarne un monsieur, enfin un chevalier, qui doit aller sauver sa princesse dans un monde complètement dévasté par les zombies. Et si on se fait toucher, on finit en caleçon. Et si on se fait toucher alors qu'on est en caleçon, on meurt et c'est terminé. On recommence. Donc voilà, c'est un des jeux les plus durs auxquels j'ai eu l'occasion de jouer, mais c'est très très bon et très très captivant comme jeu. Avant Sonic, alors qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu sur Mega Drive en fait au départ, je crois qu'il y a eu
Altered Beast.
Ah bah oui, un des premiers jeux Altered Beast effectivement. Oui. Il y avait Altered Beast, il y avait des jeux comme je crois que Gods est sorti avant Sonic.
Gods.
Alors Gods, peu de gens connaissent, mais c'est un très bon jeu sur Mega Drive, je le conseille à tout le monde. C'est un des seuls jeux violents, donc très violents pour l'époque, donc il y avait du sang, du sang sur Mega Drive. Et c'est un jeu violent où on casse des têtes, ou enfin bon, voilà. Mais où il fallait réfléchir parce que il y a une partie réflexion dans le jeu. Les niveaux sont des casse-têtes entiers et c'est génial, je le conseille. Après, je ne sais pas, la plupart des jeux avant Sonic étaient vraiment des portages arcade. Il y avait eu Outrun,
Strider,
Afterburner, Golden Axe.
Donc ça, c'est... On a cité uniquement des portages arcade à part Gods, en fait.
Ouais, effectivement, il y a Angon.
Encore un portage arcade.
Effectivement, oui, en plus. Angon, c'est un peu le Outrun de la moto. Moi, j'ai toujours dit ça comme ça, c'est exactement Outrun, mais en moto.
C'est pas faux.
Ah bah oui, c'est le même principe. D'ailleurs, je me demande si c'est pas Yu Suzuki qui a fait Angon aussi.
C'est pas impossible. Je confirmerai pas, mais c'est pas impossible.
C'est fort probable. Voilà. Bon, alors voilà, ça c'était avant Sonic. Et donc, je pense que Xehan va pouvoir nous parler un petit peu de Sonic 1.
Alors, Sonic, en fait, a été là en tant que solution en fait au problème de Sega qui n'arrivait pas à imposer sa console.
Mm-hmm.
Et donc, en fait, ils ont fait un petit concours au sein de l'entreprise, en fait, pour trouver un nouveau héros qui pourrait faire remonter les ventes de la console. Et donc, on retrouvera des personnages, en fait, qu'on retrouvera ensuite dans d'autres jeux. Alors, notamment, un gros monsieur en pyjama, qui par la suite deviendra Eggman. Un lapin, qui sera inclus dans le jeu Risk Star.
Mm-hmm.
Et finalement, le personnage qui va être choisi, c'est Mr. Needle Mouse. Créé par Naoto Oshima et en fait qui va ensuite être renommé Sonic. Donc c'est un hérisson bleu, donc aux couleurs de la firme. Et donc on va décider de l'utiliser comme nouvelle mascotte. Alors en 91, il y a son premier jeu qui sort. Et donc voilà, ça va être la grosse révolution au niveau du jeu.
Et puis une grosse campagne de pub aussi à l'époque.
Gigantesque et très très bien faite. J'ai souvenir d'une pub japonaise avec un Sonic qui passant en trois dimensions avec la petite musique derrière, et il passait sur un véhicule et il salue la foule.
Ouais.
C'était, oui, c'était assez bien fichu. D'ailleurs, les pubs des Sonic qui vont suivre sur Mega Drive seront aussi.
Elles sont géniales, mais faut dire qu'à l'époque c'était une grosse révolution parce que on voyait pas de pub pour les jeux vidéo à la télé.
Mais en fait, avant même que le jeu sorte, il était déjà connu.
Mm-hmm.
Vu que dans les magazines de jeux vidéo, pratiquement voilà, chaque semaine, quand un magazine sortait, il y avait toujours un article sur Sonic. Déjà, avant même qu'il sorte, c'était sûr que ça allait être un.
Un carton.
Un carton, voilà, c'était ce jeu-là, c'était le carton assuré. Et donc, quand il va sortir en 91, c'est donc le carton dont on a parlé, et Sega va profiter de la vague du succès pour notamment sortir Sonic 2 en 92. Puis après,
d'accord,
toute la série qu'on connaît, donc Sonic 3, Sonic & Knuckles.
Donc, une grosse remontée pour la Mega Drive qui commençait un petit peu à mourir quand même à l'époque.
Qui commençait un peu à mourir. Bah, d'ailleurs, c'est dans cette. En fait, c'est dans la même année 91 qu'est apparue la 32X.
Alors oui, alors on va venir aux accessoires après, parce que pour la Mega Drive,
en 91, c'est l'arrivée de la Mega CD. La 32X, c'est en 94. Excusez-moi.
Voilà.
Voilà. Alors après, pour les autres jeux mythiques, donc il y a tous les Sonic, ça on peut le dire. À part on en parlera après, vu que on en parle au moins une fois par podcast, mais on parlera quand même après un petit peu de Sonic Drift sur Game Gear.
Nous sommes tous des fans de Sonic, donc.
Voilà. Tous fans de Sonic, ça c'est clair. C'est une série qui a plu à tout le monde à l'époque. Et si vous voulez un petit peu plus de précision, je vous invite à écouter le podcast sur Sonic. Qui est,
et à lire les tests.
Et à lire les tests sur le site.
Et la petite pub, hein.
Et donc les tests vidéo aussi, enfin.
Je conseille le test de Sonic 2.
Faites
bien écrit, on ne sait pas quel rédacteur c'est, mais il a vraiment bien écrit ce test.
Mm-hmm. Il faudra mener l'enquête, je pense. Je pense qu'il faut mener une enquête.
Ouais. Alors, l'enquête s'impose pour trouver rédacteur.
Sur Mega Drive, ensuite, il y a eu la suite des Wonder Boy qui était encore meilleure que sur Master System. On a quelqu'un, dis-moi si je me trompe, Wonder Boy 5 in Monster World, c'est celui-là.
Wonder Boy 5 in Monster World. Oh
punaise,
tu m'as envoyé.
Est-ce le Wonder Boy où on peut contrôler un second personnage?
Non, ce n'est pas celui-là, ce n'est pas le Shoot Them Up Wonder Boy.
Moi j'en ai connu un qui est vraiment vraiment bien où on contrôle donc le personnage et il y a en plus une fille.
C'est sur Mega Drive aussi, oui.
C'est
et
Wonder Boy 3 Monster Lair, oui. C'était un jeu d'arcade à la base.
C'est une sorte de Shoot Them Up. Enfin, ça a pris la licence
Spider-Man,
mais.
C'est un croisement entre le premier Wonder Boy avec une sauce Shoot Them Up et des personnes en armure.
Voilà.
Bah c'est super bien.
Mais celui dont on parle, c'est le vrai RPG, le vrai action RPG Wonder Boy, celui qui est vraiment graphiquement très beau, qui a un univers
unique.
C'est une merveille, les musiques sont géniales.
Ils sont magnifiques, oui. Graphiquement, il est beau.
Voilà, on retrouve tous les classiques, donc des transformations, on peut enfin acheter des armes, acheter des nouvelles bottes, acheter des boucliers, c'était génial pour l'époque, ça.
Il n'y a pas de transformation.
C'est un petit peu comme Zelda sur ce point-là, en fait.
Un Zelda, mais sur un plan 2D. Et avec un héros qui a des cheveux bleus. Voilà.
Zelda, c'est une vue aérienne. Et...
Voilà.
Très bien. Non, parce que je ne connais pas trop la série, donc je pose des questions.
Je t'invite à y jouer. Je te le prêterai sur Mega Drive pour ne pas dire que tu le téléchargeras.
Oui, voilà.
Je te le prêterai, comme à l'époque, on se prêtait les jeux.
On dira pas que j'irai sur des sites d'émulation, on dira qu'on.
Je te prêterai un cœur.
Matrix Emule. donc voilà, ça c'était pour Wonder Boy. Il y a eu quelqu'un, t'as eu des coups de cœur sur la Mega Drive?
Il y a une série à côté de laquelle on ne peut pas passer qui est obligatoirement associée à la Mega Drive, c'est les
Thunder Force. Les jeux inspirés de Disney.
Ah ouais, on va déjà, on va chaque chose en son temps. Vas-y quelqu'un.
Les Thunder Force, c'est une série mythique de la Mega Drive. Le premier, je me rappelle plus sur quelle machine il a tourné, mais le 2 a existé sur Mega Drive. Le 3 est sorti sur Mega Drive, a été un carton. Enfin un carton. Pas commercial, mais un carton d'estime, on va dire. Un petit peu comme les Castlevania.
Alors, explique-moi, quelqu'un. Moi, j'ai joué à un Thunder Force, c'était le 4. C'était sur Master System, avec un hélicoptère bleu. Voilà. Je te laisse te débrouiller avec ça.
Alors, c'est pas Thunder Force 4. C'est tout simplement pas possible, ça. Non, faudra qu'on en rediscute, mais c'est pas possible. Mais justement, Thunder Force 4 est une merveille technique. C'est vraiment un jeu, c'est un shoot'em up horizontal, avec une action intense, des graphismes sublimes. On se demande, honnêtement, j'ai été bluffé quand j'ai vu ça. J'ai jamais compris comment ils avaient pu afficher autant de sprites à l'écran avec des effets de parallaxe hallucinants, une action intense. C'est vraiment une merde.
Alors oui, le parallaxe était un grand truc qui était un petit peu. Quelqu'un va nous expliquer ce que c'est, mais c'était un petit peu quelque chose de propre à la Mega Drive, ça, le parallaxe.
Non, ce pas particulièrement propre à la Mega Drive, mais ça a été très utilisé sur cette console et avec brio souvent, comme dans les Sonic et Sonic
voilà.
Force 4. C'est en fait le fait de faire déplacer séparément chaque ligne d'un fond pour donner une impression de mouvement dans un décor qui.
Et une impression de relief aussi.
Voilà. De profondeur. Ah, ça explique que les Sonic de la Mega Drive paraissent beaucoup plus beaux que les Mario qu'on trouve sur Super Nintendo.
Voilà. En fait, pour prendre un exemple, par exemple, dans Green Hill Zone de Sonic 1, quand on bouge, le décor, le fond bouge aussi en fonction du personnage et on a une impression de relief et. Bon, après, quand.
Dans la version japonaise du jeu, il y a même les nuages qui bougent.
Voilà, aussi.
Et ce, indépendamment, en fait, du joueur.
Voilà, c'est qu'il y a des choses qui bougent par rapport au mouvement du sprite contrôlé par le joueur, et des choses qui ne bougent pas, enfin qui bougent, mais pas en fonction de ça, comme les nuages, des choses comme ça. Et le parallaxe, c'est ça, et il me semble que ça a été vraiment beaucoup utilisé sur Mega Drive, parce que j'en ai vu... même excessivement, parce que des fois j'ai vu des parallaxes non justifiés.
Pour notre plaisir. Oh, mais pour notre
en
plus
fait,
grand plaisir.
C'était pour montrer la supériorité de la Mega Drive par rapport aux autres consoles.
Je pense. C'est un petit côté à rien ce que tu dis, mais.
Il y a un autre jeu.
Je suis bien accusé, ça.
Pardon, il y a un autre jeu où la parallaxe m'a pas mal tué, qui est une bombe de la Mega Drive à côté de laquelle on peut pas passer, c'est Gunstar Heroes, le premier jeu de Treasure. Tout juste sorti de chez Konami, l'équipe qui a fait contrat donc a fait Gunstar Heroes, un gunshoot qui est vraiment génialissime. Et je me rappelle d'effets de parallaxe dans les nuages. On avait l'impression de voir plusieurs couches de nuages se traverser avec une impression de semi-transparence. Alors qu'en fait, c'est un simple effet de parallaxe, mais le rendu est magnifique.
D'accord. On peut parler aussi de la série des Street of Rage, et surtout du premier qui est vraiment... un monument dans le Beat'em All. Alors Street of Rage, c'est à peu près le principe de Golden Axe, mais en plus moderne. D'ailleurs, un des Golden Axe sortis après sur Mega Drive a repris le moteur principal de Street of Rage. Et d'ailleurs, on le voit parce qu'il y a des coups qui sont à peu près similaires, des choses comme ça. Et c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel parce que c'était au départ la base du Beat'em All, c'était Double Dragon. Et puis après, en deux joueurs. C'est en fait au départ en deux joueurs c'était Double Dragon et puis après on a eu un autre deux joueurs qui était cette fois-ci sur Mega Drive qui était Street of Rage. On pouvait finir le jeu intégralement en deux joueurs et c'était génial parce que ça avait ce petit côté arcade de si on perd c'est fini.
Mais ça vous le retrouvez aussi dans un jeu. Attention, je suis prêt, je sais qu'on va se foutre de ma gueule. Power Ranger sur Mega Drive, l'adaptation du film.
Là je ne sais pas quoi dire.
J'ai eu l'occasion de le tester, mais je l'ai pas regardé.
Il te le prêtera en émulation.
Moi, je le retiens comme des meilleurs jeux de la Mega Drive, tellement il est bien fait.
Ouais, parce qu'on pouvait, j'ai pas
comme Street of Rage, on pouvait y jouer en ayant en coopération à deux. Et ça se termine exactement de la même façon, c'est-à-dire qu'on enchaînait les coups.
Oui, bah.
Il y avait les combats avec les Megazords et compagnie, c'était super bien, les musiques étaient bien. Ça, d'ailleurs, je devrais en faire le test parce que.
Ok.
Très bon jeu de la... On pourrait croire comme ça, c'est adaptation d'une
série
qui faisait carton à l'époque, mais non.
Tu me fais une très bonne transition sur les adaptations, parce que je vous parle d'une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais c'est quand même les adaptations des dessins animés Disney. Alors maintenant, quand on parle adaptation des dessins animés, que ce soit Disney ou pas, on pense forcément aux mêmes deux films, hein, on pense forcément à Booz. Eh bien, à l'époque, les adaptations des dessins animés Disney étaient très bonnes. Et pourquoi? Parce que Disney avait ses propres studios, n'avait pas encore ses propres studios, c'était un studio de Sega qui s'occupait justement des jeux Disney. Et on a des exemples concrets qui sont, je prends les deux premiers exemples qui me viennent à l'esprit, Aladdin, Le Roi Lion, ces deux jeux Disney qui sont formidables. Il y a World of Illusion, on en a parlé tout à l'heure, il y a un test sur le site, c'est magique ce jeu. Castle of Illusion, pareil, Donald Quakeshot, C'est le jeu, c'est un des
Le Roi
meilleurs jeux.
Lion et tout ça.
Ouais, le Roi Lion.
Alors, World of Illusion, c'est vraiment la meilleure adaptation.
Ouais, World of Illusion, c'est pas vraiment une adaptation parce que c'est pas un dessin animé qui existe au départ.
Oui, je veux dire,
Mais
voilà,
dans le.
c'est pris avec les héros, je veux dire.
Voilà. Après, dans l'adaptation, là, il y a l'adaptation de Fantasia aussi. Donc Fantasia qui est le grand classique de Disney avec
La
les
musique
orchestres.
symphonique derrière, voilà.
Voilà, exactement, les plus grands classiques de la musique classique et les personnages de Disney et d'autres nouveaux personnages dessus. Fantasia et l'adaptation en jeu vidéo est géniale. Il y a le niveau avec les balais, je ne sais pas si vous vous souvenez du film.
Oui.
Ce niveau-là, il est génial.
Oula.
C'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment apprécié quand j'étais plutôt gosse et c'est pour moi c'était magique quoi, j'avais l'impression de me balader dans des dessins animés.
J'ai cru que t'allais nous faire un blind test vocal.
Non, non, non,
J'ai cru
non.
que t'allais nous refaire un blind test vocal. J'ai eu très peur là, tu m'as fait stresser.
D'ailleurs, je remercie les gens qui ont écouté mon blind test vocal
Qui m'ont supporté, ouais.
qui était ouais, supporté dans le vrai sens du terme, ouais, parce que
Je
c'était pathétique.
remercie les cons qui m'ont écouté, supporté et qui ont cherché les réponses.
Il y en a, hein, il y en a. Voilà. Alors ça, c'était pour les jeux mythiques. Vous avez d'autres
Rista.
Ristar? Alors vas-y, je vais vous laisser parler de Ristar.
Alors, Ristar, c'est un jeu de la Sonic Team qui est sorti en 94 et qui reprend un des principes qui aurait pu être utilisé pour Sonic, c'est-à-dire un personnage avec des artistes, des membres extensibles. Pour la base Sonic, c'était lorsqu'il était encore un lapin, ses oreilles.
Oui, voilà, c'était le coup des oreilles en fait à la base. J'ai oublié de
Exactement.
le préciser. À la base, Sonic devait être un lapin et le début du développement du jeu a été fait avec le lapin. Et donc, en fait, afin d'éviter en fait de casser le rythme, on a remplacé par Sonic. Mais à la base, c'était un lapin qui attaquait avec ses oreilles. Voilà.
Exactement,
Pour la petite
exactement, oui.
explication.
Et
On retrouve
donc
des
voilà.
coquilles du lapin.
C'est vrai. Et donc, ce jeu est sorti en 94. On sent la patte de l'époque. On sent que c'est après Sonic 3 et Knuckles, à peu près dans la même époque que Chaotix. Graphiquement, ça se ressent. Et ce jeu est vraiment unique, original. En fait, le personnage est une étoile filante qui a des membres extensibles, qui peut s'en servir pour attraper les ennemis et ainsi se jeter sur eux et leur donner des coups de boule, ou s'accrocher à divers objets, comme par exemple des barres, pour ensuite prendre de l'élan, partir dans les airs. C'est vraiment très très bien exploité, et ça vaut le coup de tester si on ne connaît pas.
Ok.
Oui, il faudrait que. Est-ce qu'il y a eu une suite à Ristar?
Non, il y a eu une version Game Gear, mais c'est tout.
Donc c'est tombé complètement dans l'oubli.
Et
Complètement
pourtant,
dans
il y a
l'oubli.
de
nombreux fans qui réclament une suite
Très
sur
nombreux.
DS. Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent une suite sur DS. Et
J'ai même pu
d'ailleurs,
voir un mock-up d'une version DS qui avait l'air intéressant dans l'idée.
voilà. Oui, j'ai vu le fake aussi sur. C'était sur un DeviantArt que j'ai vu ça. Et
Exactement.
c'était vachement bien fait. Et moi, j'ai envie de dire pourquoi pas. Hein, moi, je lance l'idée, mais. Ça serait vraiment bien parce que c'était un jeu qui était super agréable, très coloré, très difficile, mais super bien. Alors moi, je voudrais parler aussi d'un autre jeu, qui est un jeu plutôt dans la série des jeux fous. je pense que quelqu'un doit connaître Toe Jam and Earl.
Je connais, mais je dois t'avouer que je me suis jamais intéressé à la série.
Eh ben,
Petite précision,
oui.
on a oublié notamment l'adaptation dans les adaptations de séries, Dragon Ball Z, l'appel du destin, par Bandai, donc qui était en fait qui était très très réussi.
Mais il faut
Dragon
dire
Ball
qu'à
Z.
mon avis, il était largement inférieur à celui qu'il y a sur Super NES, qui date de la même époque.
Alors, j'ai jamais eu l'occasion. Mais j'avais lu sur quelques sites des comparaisons et apparemment ils seraient à des niveaux assez proches.
D'accord.
C'était très réussi hein, comme jeu. Et
Donc.
aussi l'adaptation du film Michael Jackson Moonwalker, si
Ah,
vous
qui a fait un
connaissez.
super succès.
Et donc a été adapté en fait sur Master System, sur Born Arcade et sur Mega Drive. Et donc qui était très 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 réussi, mine de rien, pour une simple adaptation de film. Et on était vraiment dans l'ambiance du film, donc on remarque que la Mega Drive. Normalement, quand une console a du succès, on a tendance à faire un petit peu n'importe quoi. Par exemple, je prends un exemple actuel, Bienvenue chez Ichti qui va sortir sur Wii.
Attends, t'as pas encore vu le jeu. Prends un exemple d'un jeu de merde au hasard, hein, Samantha sur DS.
Samantha Hoop sur DS.
Il y en a des tas.
Cartes, enfin, ce genre de trucs.
Je crois qu'on pourrait faire un podcast entier là-dessus. Donc.
On devrait faire un podcast sur les adaptations foireuses.
Ça manque pas, ça manque pas. Il y a de quoi faire avec ça.
Voilà. Ouais. Alors ensuite, ouais, donc pour en revenir à Toadjam and Earl, c'est un jeu, donc c'est deux monstres un petit peu difformes, habillés un peu bling bling hip hop, qui débarque sur une planète et enfin qui visite des planètes et le but c'est de visiter les planètes et de retourner au vaisseau. Alors j'ai pas très jamais bien compris le principe de jeu. Je sais que quand on prend une canette, le héros rote. Je sais que quand on mange un truc, il pète et que c'est un jeu, c'est complètement décalé. C'est le jeu qui est à côté de la plaque quoi, mais c'était génial et il y a eu un deuxième épisode qui est encore mieux. Donc voilà, si vous voulez vous amuser, Toadjam and Earl, c'est sympa. Voilà, donc ça c'était pour la Mega Drive. Donc là, je pense qu'on va pouvoir passer aux accessoires de la Mega Drive parce que là, il y en a un bon paquet quand même.
Il y en a pas tant que ça en fin de compte. Alors parce que dans mes recherches, j'ai recherché un petit peu tout ce qui était accessoires dans la Mega Drive. Donc je suis allé un petit peu sur Wikipédia, je suis allé sur Zone Sega. Et en fait, il y a pas tant d'accessoires que ça. En fait, on a l'impression, mais il y en a pas tant que ça.
Mm-hmm.
Donc parmi les accessoires que l'on retrouve, alors faut savoir qu'il y a deux types de manettes. Donc il y a sûrement la manette que tout le monde a, qui est la manette classique avec croix directionnelle, bouton start, bouton ABC.
Mm-hmm.
Et il y a la manette encore plus ergonomique en fait. C'est la manette de la Mega Drive 2 qui comporte 6 boutons.
Non, c'est pas exactement ça si je peux me permettre. En fait, ouais, la manette de la Mega Drive 1 et 2 sont identiques à part la couleur, etc. Seulement, la manette 6 boutons, elle est sortie après la Mega Drive 2, mais c'est pas la manette de la Mega Drive 2 de base.
Voilà.
Donc, oui, voilà. C'est... Elle est différente alors.
La manette de la Mega Drive 2, la seule différence, c'est la couleur. Sur la Mega Drive 1, c'est gris, le bouton start et les lettres sur les trois boutons. Et sur la Mega Drive 2, c'est rouge. C'est tout.
Et le plastique me semble un peu meilleur. Elle a l'air quand même un petit peu mieux conçue, celle de la Mega Drive 2, je trouve.
Voilà.
Elle est plus agréable.
Les manettes de Mega Drive 2 sont plus confortables en fait.
Oui, voilà.
J'ai eu l'occasion d'essayer les deux et c'est plus confortable avec les manettes Mega Drive 2.
Techniquement, elles sont pareilles. Et c'est vrai qu'elles sont plus confortables.
On retrouve aussi le stick pad. Alors en plus, j'en ai un, donc je peux montrer. En fait, c'est un gros joystick arcade. Les boutons qui vont avec, et donc c'est adapté pour tout ce qui est jeu de combat. Le multitape. Alors, je sais pas si on dit multitape ou multitape. Qui tape. Permettait en fait de brancher 4 manettes sur la console.
Qui servait avec quel jeu? Parce que quel jeu joue à 4?
Eh bien, quel jeu joue à 4? Je pense les jeux de football.
Les Street Racer aussi.
Les jeux de football américains, les jeux de course.
Street Racer qui était une sorte de Mario Kart bien sympa, se jouait à 4.
Il y avait Micromania aussi, mais ils avaient un JTAP qu'ils appelaient, c'est-à-dire des porte-cartouches directement.
Micromachine. Micromachine.
Micromachine, oui, pardon. Oui.
Pas de marque.
Désolé, en plus je peux pas virer ce magasin, donc rien à voir.
Voilà. Ok, donc oui, Micromachine, oui, jouer à 4, c'était bien sympa, ça aussi, Micromachine.
Pour info, le stick arcade existe aussi en version 6 boutons.
Ok.
Oui, il y a eu plusieurs versions à chaque fois, de toute façon. Sega avec leur Mega Drive, ils ont fait 50 000 versions, donc je pense, je sais pas si on va aborder les différentes versions de la Mega Drive.
Tu peux en aborder une ou deux, les plus importantes.
J'aborderai après. Sinon, sur la Mega Drive, on pouvait brancher un modem. Alors, ça risque d'être assez long à expliquer, et c'est assez compliqué à expliquer comme ça à l'oral. Alors, je vais expliquer juste l'un, c'est le Sega MegaNet. Donc, en fait, c'est uniquement sorti au Japon en 91. Ça permettait à jouer à certains jeux online. Donc c'était un modem en fait qu'on branchait à l'arrière de la console pour jouer. C'était très très lent.
On le reliait à quoi? Une prise téléphonique?
Tu vois, j'ai regardé, j'ai essayé de trouver des images.
Mm-hmm.
Et ça doit être relié sûrement au téléphone parce qu'on voit pas de fil relié à la prise téléphonique.
Ok.
Sinon donc avec le Sega MegaNet, on trouvait notamment le jeu Sonic Eraser. Qui était une sorte de Tetris en fait avec Sonic. Toujours dans les accessoires, la souris. Donc on pouvait brancher une souris à la Mega Drive. Alors je ne vois pas vraiment l'utilité.
Pour des jeux comme des jeux éducatifs qu'il y avait eu à l'époque.
Moi, sur Drive. Voilà, des jeux éducatifs ou dans le même style que Nintendo avait fait, c'est-à-dire Mario Paint.
Voilà. Je pensais à ça.
Il y a dû avoir un Sonic Paint peut-être sur
Mega Drive. Non, il y a eu Tales Music Maker, mais c'était pas sur Mega Drive, ça, il me semble.
C'était sur Pico. D'ailleurs, pour information, la Pico est techniquement extrêmement proche de la Mega Drive.
D'accord.
On avait oublié de l'aborder celle-ci. Sinon, il y a le menaceur, donc en fait, qui est l'évolution directe du pistolet que l'on retrouvait sur la Master System. Et les deux grosses extensions qui sont la Mega CD et la 32X.
Alors.
Qui permettent de booster la Mega Drive.
Alors, vas-y, explique-nous tout ça.
Alors, la Mega CD, elle est sortie en 91 au Japon. Pour nous, chez nous en Europe, c'est en 93. Pour beaucoup de pays d'Europe, ça a été la Mega CD 2 que nous avons reçue, donc avec la Mega Drive 2. Pour une simple et bonne raison, en fait, que quand elle est sortie, quand Sega a prévu de le sortir dans notre continent, il y avait la Mega Drive 2 qui venait de sortir. Donc pour inciter les gens à l'acheter au passage, bah, ils ont sorti une seule des deux versions. C'est notamment le cas en Espagne, par exemple. Alors, à quoi servait le Mega CD? On branchait donc. Selon quelle console on avait, Mega Drive 1 c'est en dessous, Mega Drive 2 c'est sur le côté. Comme son nom l'indique, ça permettait donc de lire les CD. Alors, ça permettait par exemple de lire des CD audio, mais surtout de jouer à de nombreux jeux en fait. Le gros défaut c'était les temps de chargement qui apparemment étaient assez longs.
Pas tant que ça, sincèrement pas tant que ça.
Voilà, apparemment, c'est ce qu'on disait, il y a beaucoup de personnes qui s'en sont plaintes, les temps de chargement étaient longs.
Moi, je les ai pas vus dépasser les 30 secondes, honnêtement. Donc.
Voilà, donc, de toute façon, quand on voit les temps de chargement de la PS1, je pense.
On en est très loin, ils sont bien.
On est très loin, oui.
Ah oui, on en est très très loin. Ceux de la PlayStation sont bien plus durs, ouais.
Donc, sinon, en Europe, le succès a été mitigé. Et même très très faible. Vu que seulement 4% des personnes qui possédaient une Mega Drive à ce moment-là ont acheté le Mega CD. Pour cause, en fait, le prix. Qui était excessif. 270 livres au Royaume-Uni, ce qui, chez nous, ce qui en euros doit nous faire environ 300 euros.
Ok, avec, donc c'était relativement cher pour l'époque.
Oui, là. Et sinon, bah, quelques gros jeux. En fait, en tant que grand fan de Sonic, je peux vous en citer qu'un. Sonic CD, donc, qui en fait profitait des capacités du Mega CD pour une bande-son magnifique en fait. Alors, je pense que Punky, tu dois aussi avoir écouté la bande son de Sonic CD. Elle est tout un.
Je l'écoute en boucle, bien sûr. C'était plus de la musique du synthétiseur de la console.
Voilà.
C'était pas créé en live par le synthétiseur de la console. Non, c'était des musiques enregistrées sur le CD. Et c'était vraiment de l'audio, quoi.
C'était bien plus beau. Donc, voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur le Mega CD qui a.
Vas-y, quelqu'un.
Il a été principalement sorti pour contrer le lecteur CD de la PC Engine qui a connu bien plus de succès au Japon. Et comme un jeu intéressant sur le Mega CD, on trouve également le meilleur portage console de Final Fight qui s'appelle Final Fight CD, qui est vraiment de très grande qualité. C'est vraiment bien fichu. Et un jeu assez sympa. Qui est très très proche des Wonder Boy, qui s'appelle Pop Full Mail, que je recommande.
D'accord. Sur la Mega Drive, il y a un jeu qu'on a oublié quand même, qui est quand même une anthologie, c'est Puyo Puyo. Donc, quelqu'un, je suppose que tu connais Puyo Puyo.
Oui, bah, quand j'étais petit, comme pas mal de monde.
Alors, pour ceux qui connaissent pas, et faire simple, si vous voyez le jeu Dr. Robotnik Means Bean Machine.
Tout simplement. Une version Mega Drive européenne et américaine. Enfin, occidental pour faire plus simple d'ailleurs, de Puyo Puyo, car Puyo Puyo en Occident, jusqu'à assez récemment, a été sorti sous des licences sur diverses machines.
Oui, il a été sur Super NES avec Kirby.
Kirby Avalanche, de son nom.
Voilà. Voilà. Donc, sinon, c'est un très très bon Tetris-like puzzle game.
En versus de compile, vraiment.
Voilà. Sinon, dans le même genre, il y avait Columns aussi. Qui était super sympa sur Mega Drive. Donc voilà pour les jeux. La 32X, Xelad.
Alors, la 32X, alors elle date de 94 en fait. Elle a été faite pour contrer l'arrivée de la PlayStation de Sony. Alors, je vais vous donner donc tout de suite ses spécifications techniques. Elle possède deux processeurs SHE d'Hitachi. Ces processeurs de la 32X, on les retrouve dans la Saturn. Dans la Sega Saturn.
Ah, quand même.
L'améliorer le son de la Mega Drive ainsi que tout ce qui est capacité graphique, ça permettait en fait d'afficher du 3D. Et donc en mettant le Mega CD et la 32X, on obtenait des jeux largement mieux faits.
Ok.
Notamment, alors il y en a qui sont cités, Corpse Killer, Night Trap,
Supreme Knuckles Warrior, Chaotix.
Et ah oui, donc jeu assez important sur Tandix, c'est Knuckles Chaotix, qui est en fait un spin-off
de
Sonic the Hedgehog.
Avec Knuckles et l'équipe des Chaotix, la première apparition de l'équipe Chaotix, donc composée de Vector, de Charmy, de Espio, Mighty. Mighty qu'on n'a jamais revu d'ailleurs, à part dans Sega Sonic sur arcade.
Voilà. Exactement, accompagné
de Rel et Curry.
Alors, il faut savoir en fait que Knuckles Chaotix, à la base, était développé sous le nom de Sonic Crackers. Donc, il devait sortir sur Mega Drive, ça devait être le prochain Sonic de la Mega Drive.
Voilà, parce que il faut juste expliquer que le concept de Knuckles Chaotix change un petit peu des différents Sonic, puisqu'on est deux, reliés par une sorte de chaîne extensible, et que donc la force d'inertie et aussi un petit peu la force centrifuge dans certains niveaux, mais l'inertie en fait fait que les deux joueurs
sont obligés de rester côte à côte.
Voilà. Et donc dans Sonic Crackers, on peut trouver des bêtas sur le net. Dans Sonic Crackers, on trouve donc ce gameplay là, quoi.
En fait, Sonic Crackers était la première version. En fait, le jeu était censé sortir sur Mega Drive. Mais alors, en fait, c'est pour ça qu'on parle énormément de Sonic quand on parle de Sega. C'est qu'en général, les idées de Sega sont très très liées à ce qu'ils veulent faire de la firme Sonic. Donc, sachant qu'ils allaient sortir la 32X, ils ont décidé de changer le projet, de renommer, de changer entièrement les personnages, Sonic et Tails Exit, et ils ont mis donc Knuckles et la bande des Chaotix.
Voilà, et qui était un très très bon jeu et qui avait son propre univers.
Et donc, qui a été énormément apprécié.
Et donc, en grand méchant, on avait Metal Sonic, encore une fois.
Ouais.
Voilà. Sinon, il y a eu un Vectorman quelqu'un sur 32X.
Non, pas du tout.
Non.
Vectorman et Vectorman 2 sont sur Mega Drive, mais c'est vrai que techniquement ils sont bluffants. On pourrait presque croire qu'ils sont sur 32X, mais non, c'est de la Mega Drive.
D'accord.
Il y a eu Mortal Kombat 2.
Alors, oui.
Il y a eu beaucoup de jeux de sport, notamment NBA, NFL, FIFA Soccer. En fait, il n'y a pas eu énormément de jeux sur la 32X. À tout casser, il devait y avoir une cinquantaine de jeux.
Non, il y en a une trentaine, si je dis pas de bêtises, plutôt.
Ouais.
Bonne trentaine.
Je les ai sous les yeux, je me vois pas trop les compter, mais oui, entre 30 et 50 jeux, je pense.
Ouais.
Comme autre jeu intéressant sur 32X, il y a notamment le portage de Space Harrier, qui est à 10 000 lieues du portage qu'on a sur Master System, qui est vraiment un portage équivalent à trois vaches près à l'arcade. C'est vraiment super de jouer dans ces conditions. Je recommande à tout le monde la version 32X.
Étant grand fan de Space Harrier, je pense que je vais tester ça, parce que...
Je te l'apporterai quand on se croisera s'il faut.
D'accord, il n'y a aucun souci, parce que moi...
Vous venez de me faire remarquer quelque chose.
Oui.
On parlait des lunettes 3D. Ah oui, je reviens à mes lunettes parce que moi, ça... Je suis sûr que c'était quelque chose de génial. Space Harrier 3D était sorti aussi en 1988 sur la Master System avec les lunettes. En fait, le jeu entre 86 et 94 a eu de nombreuses adaptations.
D'accord.
Voilà.
C'était un très bon jeu.
C'était le petit hors-sujet du podcast.
Devait y avoir un Afterburner 3D aussi, je pense.
On a un autre jeu intéressant sur 32X qui est Tempo. Tempo, c'est une sorte d'insecte fan de musique. C'est un jeu de plateforme vraiment très frais qui a été développé par Red. C'est l'équipe qui est responsable des PC Genjin, les PC Kid. Et c'est vraiment un personnage... C'est aussi délirant que les PC Kid. Alors, je recommande.
Ok. C'est dans le genre insecte. Je connaissais un jeu qui s'appelait Bug sur Saturn, mais on en parlera dans le prochain podcast.
Non.
Non, non, d'accord.
Non, parce qu'en fait, j'allais dire sur 32X, c'est eu Sonic 3D, mais non, Sonic 3D, c'était sur Sega Saturn.
Oui, voilà.
Contrairement, j'allais dire avec les graphismes de la 32X, on pouvait afficher 3D, mais non, la Mega Drive était déjà capable d'afficher un petit peu de 3D.
Alors non, c'était pas de la 3D, c'était de la 3D sprittée. Hein.
Oui, voilà.
Sprite.
Je veux dire,
non, on a Virtua Racer qui qui existe sur Mega Drive. Mais la cartouche est quand même plus grosse car elle contient une puce particulière.
Mais oui, il y avait certaines cartouches qui contenaient des puces qui étaient un peu plus grandes, dont Desert Storm. Je me souviens de la cartouche de Desert Storm qui était plus grande.
Ouais, il y avait des cartouches particulières sur Mega Drive.
Les Desert Strike,
Sonic
c'est
and Knuckles, par exemple, c'était une cartouche.
Oui, Desert Strike, pardon. Pas Desert Storm.
Sonic and Knuckles, ça permettait de mettre une autre cartouche dessus.
Mais pour Desert Strike, si je me trompe pas, c'est plutôt Electronic Arts.
Ok, tout le monde n'a rien à faire.
Désolé, okay. Je tenais à dire mon truc. C'est juste que, si je me trompe pas, c'est plutôt Electronic Arts qui a fait ses propres cartouches parce qu'il voulait pas payer de royalties à Sega. C'est pour ça que les cartouches étaient différentes. Si je me trompe pas, c'est bien ça.
Ah d'accord, tout bêtement.
Tout bêtement.
Oui, c'est vrai qu'il y a l'ancien logo d'Electronic Arts en jaune sur le côté. C'est pas faux. Voilà. Alors oui, Xelan, tu voulais dire quelque chose sur Sonic et Knuckles?
Dans les cartouches particulières, il y a la cartouche donc de Sonic and Knuckles. Mm-hmm. Qui inclut en fait une petite puce supplémentaire pour en fait rajouter une cartouche sur cette cartouche. Donc je pense que tu as dû l'expliquer dans ton test de Sonic 3 and Knuckles.
Oui.
C'est un système génial en fait qui a été utilisé uniquement par Sega, c'est le lock-on. On mettait la cartouche, par exemple, ça pouvait être Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3.
Bah oui, le plus important,
et
Sonic 3.
Toutes les autres cartouches Mega Drive faisaient à chaque fois un jeu différent. Et donc Sonic 2 par exemple permettait de jouer avec Knuckles dans
alors attention. Sonic 2. Alors attention, toutes les cartouches Sonic. Parce que
Toutes les cartouches Sonic, les cartouches Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3 permettaient d'avoir un jeu nouveau. Sonic 1 c'était tous les bonus stage regroupés. Il y en avait énormément.
Non, c'était pas tous, c'était que des niveaux supplémentaires parce qu'il y en avait plus de, il y en avait plus de 1000 ou quelque chose comme ça.
C'était tout plein de bonus stage regroupés dans le jeu. Mm-hmm. Et quand on mettait d'autres jeux, par exemple, tu mets Sonic Spinball, même si c'est un Sonic, t'auras pas pour autant un jeu inédit.
Non, t'as les bonus aussi.
T'auras un bonus stage.
Voilà, c'est un bonus stage.
Par jeu.
Exactement.
Les trois cités précédemment. Voilà.
Voilà. Exactement. Voilà, ça c'était pour la Mega Drive. Tu as d'autres précisions, quelqu'un sur la Mega Drive?
Ah ben, j'ai un accessoire assez insolite qui existe pour Mega Drive. Alors, je suis pas certain de savoir si c'est pour Mega Drive ou Master System. Je sais que c'est compatible Mega Drive. C'est une chaise sur laquelle on s'assoit et on tient deux gâchettes et on doit bouger pour choisir la direction dans laquelle on veut aller. Et on a avec nos deux poignets, on peut tirer. C'est pas mal pour Space Harrier, ce genre de choses. C'est vraiment un objet insolite.
C'est quoi ça? C'est l'ancêtre de la Wiimote?
Non, c'est vraiment une chaise sur laquelle tu t'assois. En fait, c'est comme si c'était une manette géante.
Et comme un sas, comme un cockpit d'arcade un peu.
Ah, est-ce que t'as des images de
si
ça?
Si on veut, ouais. Je saurais pas te le retrouver parce que je me rappelle plus du nom.
Ah, si tu trouves, ça m'intéresse, moi.
Xelan, pour jouer à Sonic 2, ça va pas le faire.
Jouer à Sonic 2, tu vois, essayer de jouer à Sonic 2 sur une chaise bizarre, de nouvelles expériences.
Y a aussi une cartouche qui permettait de jouer à la Master System sur sa Mega Drive. Un adaptateur.
En fait, la Mega Drive, à la base, quand elle a été développée, elle pouvait lire les jeux Master System.
Voilà.
Et par la suite, ils ont enlevé ça, donc ils ont rajouté un petit adaptateur.
Voilà, que moi j'avais.
À préciser. Il n'y avait pas encore de protection territoriale. Pas comme on la connaît. C'est-à-dire que les jeux américains et européens passaient sur Mega Drive européenne, mais pas les jeux japonais, qui avaient une forme différente. D'ailleurs, je pense que tout le monde doit avoir au moins une cartouche japonaise. Différente.
Si je peux me permettre de préciser, en fait, il y a cette protection physique dont tu parles, mais il y a aussi une vraie protection territoriale classique. Avec trois zones, qui sont la zone japonaise, américaine et européenne. Et seulement, ce qu'il y a, c'est qu'au début, souvent, les jeux de la période des boîtes, ce qu'on appelle la période des boîtes noires, car les Mega Drive en Europe ont eu deux grandes périodes pour les boîtes, celle de la Mega Drive 1 avec des boîtes noires et la Mega Drive 2 avec des boîtes plutôt bleues. Donc, dans la période des boîtes noires, très souvent, les jeux n'étaient pas zonés, même si le zonage était possible, tandis que sur la période des boîtes bleues, les jeux étaient très souvent zonés. Et voilà.
Moi je me souviens de Sonic Compilation qui était pas zoné.
Oui, il doit pas l'être celui-là.
Non, je
l'ai
dit, mais.
J'ai le souvenir de Sonic 2 en version américaine qui n'est pas zoné.
Il n'est pas zoné du tout, tout simplement parce que c'est la même ROM pour les trois versions.
Voilà, il rentre parfait, la cartouche rentre parfaitement. En revanche, la cartouche japonaise de Sonic 1 ne rentre pas.
C'est normal, oui, il faut limer.
Donc, soit il faut limer et donc niquer sa cartouche, soit solution de facilité, mettre un adaptateur, ou soit, attention, une solution qui peut être utile, si vous avez un Game Genie, vous le mettez et vous mettez ensuite la cartouche de Sonic 1 dessus.
Ouais, ou alors mieux.
Et ça va fonctionner.
Et
vous
moi,
vous n'aurez pas niqué votre cartouche.
Tu limes ta console bien proprement et ça passe tout seul.
Voilà.
Oui,
c'est
voilà,
la console qu'il faut limer.
Toi, je veux dire, sans abîmer la console ou la cartouche.
Oh, c'est vrai que moi j'avais un Game Genie et pourtant j'ai limé mon truc, donc tu m'apprends un truc parce que j'avais jamais pensé à le mettre sur le Game Genie.
Ouais, mais toi t'es un gros bourrin, tu vois.
Mais moi je l'ai quand même limé au couteau, hein. Au couteau de cuisine, enfin de.
Ah oui, toi ça va loin quand même.
Oui, mais moi avec mes consoles j'ai jamais été trop. Enfin voilà. Ok. Est-ce qu'on avait fini avec la Mega Drive ? On a tout dit, je pense. Enfin pas tout, parce que sinon il faudrait des heures et des heures. Mais on a dit le principal, il me semble.
Si je peux me permettre une toute petite ponctuation insolite encore.
Mm-hmm.
L'adaptation de Zero Wing sur Mega Drive a été très connue pour son doublage particulièrement mauvais.
All your base are belong to us.
All your base belong to us, For Great Justice et compagnie. Tout ça, ça vient de la version Mega Drive, de la version occidentale Mega Drive.
Someone set up the bomb.
Voilà, exactement. Tout ça, ça vient de là. Donc, voilà, c'était pour la petite anecdote.
Ouais, okay. Et pourtant, le jeu était très bon.
Le jeu est sympa, oui. Pourtant, le jeu est sympa, mais bon. C'est le petit plus, on va dire.
Ok. Donc là, on va passer à la première console portable en couleur et de chez Sega en plus, et la seule console portable de chez Sega, la première console portable avec un écran couleur qui avait aussi un écran rétro éclairé, et donc ça c'est la Game Gear ou la Game Gear pour les anglophones,
la
donc voilà,
la concurrente directe de la Game Boy et qui était en fait largement meilleure que celle-ci sur de nombreux points, hein, les graphismes notamment.
Voilà.
Elle affichait des couleurs, la Game Boy non.
Enfin, si, la Game Boy, je suis désolé, elle affichait le vert et le vert foncé.
Voilà, génial, la Game Gear, elle affichait toutes les couleurs.
Oh, pas toutes.
32 voilà. Couleurs sur une palette de 4096.
Waouh.
Quand même, hein.
Alors que, ouais, ça, c'était
et
pas.
Et l'écran était en effet rétro-éclairé.
Et ouais, et tout ça, ça consommait à peu près 300 francs de pile par jour.
C'est vrai que la consommation
de piles,
6 piles
pour 4 heures de jeu, exactement. C'était quand même assez.
Mais on pouvait jouer en la branchant sur le secteur.
Aussi.
Heureusement. Mais... Heureusement.
C'est vrai. Alors.
On peut d'ailleurs utiliser l'adaptateur de la Master System qui convient parfaitement, ou d'une Mega Drive, ça va parfaitement.
Ouais, c'est le même, c'est du 9 volts.
Alors, au niveau des jeux, bah, on retrouve les jeux de la Master System.
Car techniquement d'ailleurs c'est une à la base c'est quasiment aussi une Master System.
En fait. Bah en fait c'est une Master System portable.
Une,
comme
voilà.
La Nomad est une Mega Drive portable, il y a la Master System portable.
C'est voilà. Pas plus à ce point-là quand même. La Game Gear est spécialisée, elle a ses propres jeux, elle a plus de couleurs, une résolution plus petite. C'est pas non plus exactement la.
C'est la PSP de l'époque quoi.
Une vraie PSP ouais.
C'est-à-dire des adaptations et des nouveautés.
C'est, on va dire que oui, voilà, on peut dire que la PSP est à la PS2, ce que la Game Gear est à la Master System.
Voilà. Et bah, la Game Gear aussi, il y avait des très très bons jeux dessus. Et je voudrais commencer par un jeu qui me tient à cœur, un jeu exclusif à la Game Gear. Et heureusement, Sonic Drift.
Ah oui!
Et wow. Sonic Drift 2. Alors là, on va pouvoir en parler, parce que à chaque fois on se prive, mais là, on va pouvoir un petit peu.
Ça, c'est génial!
On va pouvoir troller un petit peu. Alors. Sonic Drift. Qu'est-ce que c'était? C'était, vas-y, Xelan, je te laisse y aller, parce que moi, je veux pas pouvoir.
C'était l'adaptation d'un Super Mario Kart sur Game Gear. C'est-à-dire qu'en 94, Sega ont décidé de sortir leur propre Mario Kart, en fait, sous le nom de Sonic Drift. En fait, c'était la même chose, quoi. C'est le même système. Des armes. En plus, l'adaptation est nulle, en fait.
Dans Sonic Drift, il n'y a pas d'armes. Hein. Il me semble pas.
Il y a des objets, mais pas. Il me semble qu'il y a des objets, peut-être des mines.
Il y avait des objets.
Mais des vraies armes joué... comme les carapaces, il me semble.
J'y ai joué deux minutes avant d'éteindre la console. Il y a des objets. J'ai pas compris comment il marchait, mais il y avait des objets.
Ah, d'accord.
On notera une suite à Sonic Drift qui s'intitule Sonic Drift 2, sorti en 95. En fait, c'est un petit peu on prend les mêmes et on recommence.
En plus, on prend exactement les mêmes, on change les backgrounds et puis c'est tout.
Comme si la première merde n'était pas suffisante, on nous en sort une deuxième.
Bah ouais, sans tirer la chasse en plus.
En plus, comme ça, enchaînement.
Il y a eu Sonic Labyrinthe aussi, qui était sympathique.
Oui, Sonic Labyrinthe. Sonic, ça représente la vitesse. Sonic Labyrinthe, c'est tout simplement l'inverse.
Voilà, c'est le jeu où j'ai jamais compris ce qu'il fallait faire.
En fait, c'est censé récupérer des petites clés que tu dois ramener. Et ton seul pouvoir, c'est le spin dash.
Sonic to the Past. Oui, moi c'est Zelda, moi pour moi, mais sauf que c'était plus moche. Enfin bon.
Spin Dash.
Voilà.
C'était foireux.
D'accord.
On retrouve aussi des jeux comme Sonic Spinball, qui était sorti sur Mega Drive, qui est sorti sur Master System et qui a ensuite été encore adapté sur Game Gear.
D'accord. Et hors Sonic, qu'est-ce qui se passe sur la Game Gear en dehors de Sonic?
Il y a du Shinobi.
Tu peux mettre tes jeux Master System, donc t'as Wonder Boy, X-Kid.
Ah oui, il y a Shinobi, c'est vrai.
On a les GG Shinobi qui sont exclus. On a aussi des Alest, des GG Alest, si je me trompe pas. On a les portages des Wonder Boy qui sont bien fichus.
On a Sonic Chaos qui est exclusif à la Game Gear.
Chaos il est pas exclusif parce que juste sur Master System.
Ah d'accord. Il y a pas un Sonic exclusif à la Game Gear?
Moi aussi, il y en a pas mal.
À part Sonic Drift.
Il y a G-Sonic. Qui est le Sonic and Knuckles de la Game Gear. Je sais pas si vous en rappelez. C'est le jeu horrible où ils ont essayé de faire des sprites en 3D.
Oh oui, oui, oui.
Tu te rappelles de lui?
Oui.
G-Sonic, c'est pas Sonic Blast? Il est connu sous le nom de Sonic Blast, je crois.
Oui, oui, c'est Sonic Blast.
Je crois qu'ensuite il a été adapté sur Master System.
Oui, oui.
C'est pas impossible, il a dû sortir qu'au Brésil, quelque chose comme ça, je pense.
En Pologne. En Pologne du Nord.
Oh non, mais la Master System est très très présente au Brésil. Elle a été distribuée par Tectoy, c'est vraiment un pays où elle est très présente.
Au Brésil, ils adorent Sega. La Mega Drive, elle a duré jusqu'en 98.
Qu'est-ce qui sortait?
Avec vraiment énormément de succès, quoi. La Master System aussi.
Mais à cette époque-là, ils auraient pu sortir Samba de Amigo sur Mega Drive. C'est presque ça.
En 98, et eux, ils étaient à fond dans Sonic 1, alors qu'on arrivait, nous, avec Sonic Adventure, quoi.
Ouais, le Brésil était un petit peu en retard, quand même.
C'était un petit peu le choc des graphismes.
Alors, sur la Game Gear aussi, faut préciser
qu'il paraît qu'ils viennent d'avoir la Saturn.
c'est qu'une rumeur. Hein.
C'est qu'une rumeur, on n'est pas sûr.
Faut pas s'avancer.
Hein. tu les imagines avec leur Sega Saturn.
Oh, yeah. Wow, la révolution technique.
Oh, yeah.
Wow, vivement la Dreamcast.
Pour en revenir à la Game Gear.
Oh, y'a Payard ou na Dreamcast.
C'est ça, oula. Pour en revenir à la Game Gear, on a tout de même Sonic Triple Trouble qui est pas trop mal, qui s'en tire bien.
C'est pas Sonic Chaos 2?
Si, il me semble que ça doit être ça, ouais. Et on a aussi un peu plus original Tennis Adventure. À mon avis, c'était pas un Sonic à la base.
Ça demande une recherche.
On a aussi Sonic Sky Patrol. Tails Sky Patrol.
Ah, le jeu avec Tails.
Ouais. Qui vole avec son petit anneau qui peut accrocher des sortes de barres de fer. C'est un patoche sans plus, quoi. Ça se joue 5 minutes et après on arrête.
Voilà, et il y a Tails Adventure, ouais, qui était.
Tales Adventure, lui, était bien.
Ouais, il était pas mal.
Mais Tales Adventure, c'est sympa, ouais.
Alors, moi, je voudrais revenir sur un jeu que.
Très, très bien.
Un jeu que j'ai eu sur Game Gear, qui est au départ un jeu qui est sur Master System. Mais je l'ai eu sur Game Gear, et ça s'appelle Super Tennis. C'est un jeu de tennis, et c'est le jeu où il se passe rien. La balle, elle met 30 plombes à arriver de l'autre côté du terrain. T'as le temps de prendre un cap.
Est-ce que Super Tennis, c'est le jeu qui a été mis en bundle dans la cartouche avec 4 jeux? La sèvre cartouche, 4 jeux, For Game In One.
Il me semble. Avec California Games, des trucs comme ça.
Alors, ça doit peut-être pas être celui que je pense, mais bon. Toujours est-il que la...
Pareil, il y avait un jeu super, Black Belt, on n'en a pas parlé de celui-là. Black Belt, c'est en fait, en Europe, c'est Black Belt, mais au Japon, c'est sorti sous la licence Okutonoken, donc Ken le Survivant. Et c'était génial, c'était un beat'em all sympa. C'était sorti sur Game Gear et sur Star System, bien sûr. Donc voilà, ça c'était pour la Game Gear. Pas trop d'accessoires pour la Game Gear. Hein. S'il y avait eu les fameuses batteries rechargeables qui duraient 2 jours. C'est-à-dire que tu la rechargeais une fois et puis
alors, il fallait racheter. Côté Game Gear, c'est encore d'actualité comme console, vu qu'en 2006, Mediatronic ont sorti en fait la Pocket Gear. C'est une réédition en fait de la console avec une vingtaine de jeux à l'intérieur.
Donc, et pas la possibilité de mettre. On peut
un
pas mettre
peu
de
comme la Mega Drive TV.
Ok.
Et dans par exemple, on retrouve Columns, Sonic Drift, Sonic Triple Trouble, Alex Kidd, Fantasy Zone, etc., etc.
D'accord. Voilà. Après niveau accessoires, c'était pas très très riche. Voilà.
Niveau accessoire, à part l'adaptateur pour les jeux Master System.
Tiens, si, c'est vrai, ça c'est un objet intéressant tout de même. C'est vrai que pouvoir jouer à ces jeux Master System dans son lit, ses excuses, je dois avouer que c'est agréable quand même.
Moi je mettais ma télé dans mon lit, ça allait. Moi directement, moi j'avais le grand écran. Alors, faut préciser aussi que la Game Gear faisait atrocement mal aux yeux. On ne sait pas pourquoi. Alors peut-être que c'était à cause de la fréquence.
Ou peut-être que c'était à cause de la tête de la console.
En fait, je crois que
horriblement peur. Qui te stressait.
Le contraste, mais pas la luminosité.
Il y avait la musique de l'exorciste quand tu l'allumais.
Ah oui. Ah oui. Je me souviens, c'est marrant que tu dises ça parce que moi aussi, quand j'étais gosse, je pensais que c'était la musique de l'exorciste. C'est la musique, le jingle de début de la Game Gear. C'est une sorte de un truc comme ça. Quelqu'un me confirmera. Mais il y a une
petite. J'ai dit ça complètement au hasard.
Eh ben écoute, moi je pensais que c'est la musique. je pensais que c'était. Enfin moi je trouvais quand c'était petit que ça faisait un petit peu musique, tu sais, suspense. Non mais c'était une musique à la con. Et moi j'ai trouvé.
Bah, faisant un blind test vocal.
Voilà, tout bêtement. Mais non, mais c'est bizarre que t'aies dit ça au hasard parce que ça m'a rappelé un de ses souvenirs que cette musique me faisait peur. Et il y a une autre musique qui me faisait peur aussi, c'était le Sega du début de Sonic 2 et j'ai toujours eu peur de ça.
Ah, moi, Sega, c'est le je sais pas si vous vous rappelez du Sega de Sonic 3D.
Sega.
Sega.
Oui, c'est particulièrement violent. Ouais.
La grosse agression, tu vois.
Alors que
t'es
après,
tu vois, t'es habitué à un truc, un gros cœur, tu vois, Sega. Et puis là. Waouh!
Oh, tu vas prendre
japonais,
ta
race. Tu vois.
Ok.
Un samouraï japonais.
Alors, on va terminer ce petit podcast sur la première partie de la vie des consoles Sega, de Sega dans le hardware, par une question que je vais vous poser à tous les deux, qu'on va se poser tous ensemble. Je vais vous demander votre plus belle expérience sur de tout ce qu'on a parlé là-dessus. Si vous deviez choisir une expérience que vous avez vécue, une petite anecdote, un truc qui vous a marqué, ça serait lequel? Alors, je vais commencer par Xelan.
Alors, j'hésite entre Sonic 2
et
l'expérience de quand j'ai découvert qu'on pouvait mettre la cartouche de Sonic 2 sur la cartouche de Sonic & Knuckles. Donc, je vais choisir ça. Parce qu'à ce moment-là, en fait, j'avais fini Sonic 2. J'étais très content. J'ai fini Sonic & Knuckles, j'étais encore plus content. Et après, je me suis rendu compte en fait qu'on pouvait ouvrir la cartouche. Je sais, je suis un petit peu con. Hein. je me suis rendu compte qu'on pouvait ouvrir la cartouche, je l'ai mis dessus. Et bon, bah, je me suis refait le jeu avec Knuckles. Quoi. Donc, c'était.
Ça faisait
plaisir en fait de pouvoir y rejouer comme ça.
Ok.
Donc, en fait, ça combine mes deux jeux Sonic préférés. Donc, Sonic & Knuckles et Sonic 2.
Ok.
Donc, une grande expérience. Petite larme à l'œil, tu vois.
Quelqu'un?
Pour moi, c'est plutôt des secrets techniques qu'on a pu réaliser sur Mega Drive qui me surprennent dans des jeux comme Thunder Force 4 avec qui sont nerveux comme ça on peut plus avec des boulettes dans tous les coins. J'arrive pas à comprendre comment ils ont pu faire pour gérer autant de sprites sans presque aucun ralentissement. C'est vraiment super rare. Pareil pour Gunstar Heroes, il est magnifique. C'est plein de petits jeux, on va dire, qui mettent des petites claques. C'est toute la Mega Drive dans l'ensemble quoi, qui m'a mis une claque, qui est une expérience. Quoi. Pour tous ces jeux, je ne serais pas capable d'extraire une chose. Les Sonic, les Streets of Rage, c'est vraiment un ensemble. Quoi.
Mais encore, vous avez eu la Mega Drive, vous étiez adolescent.
Ah non, moi j'étais tout petit moi quand j'ai eu la Mega Drive. J'avais 6 à 8 ans, moi. 6-8 ans, enfin moi de mes 6 ans jusqu'à ce que j'ai ma Saturn. Et avant c'était la Master System. Hein.
Moi, j'ai souvenir que je l'ai eu. Parmi mes premiers jeux, il y avait Sonic et Knuckles et Sonic Compilation, sachant que Sonic Compilation est sorti en 96 et Sonic et Knuckles en 94. J'ai dû l'avoir entre 94 et 80, entre 95 et 96, autrement dit quand même très tard.
D'accord. Donc, moi, je me souviens que je l'ai eu à la sortie de Sonic 2. Moi.
Bah, tu vois, le plus choquant, c'est que moi, je l'ai eu en étant en 2000, tu vois.
Ah ouais.
Donc, il y avait quand même la Nintendo 64 et pourtant, je préférais ma Mega Drive.
Ok.
Il y avait même la PS2, oui, en 2000.
Ouais.
Je me trompe pas. Ouais, moi, je en 2001, je sais plus. Enfin bon, en tout cas, c'est après la Dreamcast et soit en même temps, soit juste avant.
Ouais. Moi, pour revenir à cette question, ma plus belle expérience, j'hésite. Mais je pense que c'est un peu similaire à ce qu'a vécu Xelan, sauf que moi c'est un peu plus con, voire beaucoup plus con. C'est que c'est l'exact inverse. C'est-à-dire que moi j'ai joué déjà Sonic et Knuckles quand j'étais gosse, je l'appelais pas Sonic et Knuckles, je l'appelais Sonic 4. Et moi j'y jouais avec la cartouche de Sonic 2 dedans. Je savais justement, j'avais lu dans mon magazine Joystick de l'époque qu'on pouvait donc réunir les deux. Et donc ça parlait pas vraiment du jeu en fait, ça parlait du fait qu'on puisse réunir ces deux cartouches et aussi Sonic 3, j'avais pas Sonic 3 à l'époque. Donc j'avais joué à Sonic 2 et Knuckles avec Knuckles. J'avais joué ensuite, après avoir acheté Sonic 3, à Sonic 3 avec Knuckles, et à la fin de Sonic 3 il y avait des autres niveaux et j'ai fait qu'est-ce que c'est que ça. Et en fait j'ai enlevé la cartouche de Sonic 3, j'ai juste laissé la cartouche Sonic et Knuckles et en fait j'ai compris que Sonic et Knuckles c'était un jeu. Et là j'étais émerveillé. J'ai presque pleuré. Et puis une autre expérience, c'est le jour où ma première Dreamcast m'a lâché et où j'ai regardé tous mes jeux et où je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de tout ça. Et j'ai racheté une autre Dreamcast, une autre Mega Drive. Ma première de Mega Drive et j'ai racheté une Mega Drive 1 après et j'ai joué à Landstalker parce qu'on me l'avait vendu avec Landstalker. Et quand j'ai joué à Landstalker et que j'ai fini Landstalker, j'ai presque pleuré aussi. Voilà. Je pense qu'on a terminé ce podcast. Et ben, je vais remercier quelqu'un d'être venu parler un petit peu avec nous de ce petit rétro gaming. C'était sympathique à toi d'être venu. Et puis voilà. Et puis merci Xelan comme d'habitude. On vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de la saga Sega, où nous parlerons de la Sega Saturn, de la Dreamcast, et je pense qu'il va y avoir une grosse partie sur la Dreamcast, et aussi de Sega, ce qu'ils font actuellement sur le multi-support, et aussi, pourquoi pas, lancer un débat sur l'avenir de Sega.
Dreamcast 2.
Voilà, une possible Dreamcast 2, est-ce qu'ils vont se relancer dans le hardware? On va aussi parler des difficultés financières qu'ils ont actuellement et tout ça. Voilà, ça nous a fait très plaisir d'être en votre compagnie. J'espère que vous aurez apprécié ce podcast. Jouez à votre Mega Drive, jouez à votre Master System et puis on vous dit à la semaine prochaine.
Jouez à Sonic 2.
Jouez à Sonic Drift. Et voilà, merci à tous de nous avoir écoutés. Au revoir, salut.
Salut.
Au revoir.